Vous écoutez, on lit pour vous.
Personnalité Caribou 2023, Julie Aubé, semeuse professionnelle. Un texte de Véronique Côté paru le 5 décembre 2023 dans le magazine Caribou. Caribou l'a choisie comme personnalité de l'année 2023 parce qu'elle parle d'alimentation de proximité depuis des années, qu'elle valorise le travail des producteurs auprès du grand public et qu'après avoir vanté les aliments locaux et de saison dans les médias, ses livres et ses événements, elle prêche maintenant par l'exemple en devenant apprentie fermière. Julie Aubé sème des graines dans la tête des gens depuis très longtemps et le fait maintenant aussi littéralement. Nous devons d'emblée être transparentes. L'équipe de Caribou connaît Julie depuis longtemps. La première fois que nous l'avons rencontrée, c'était pour le brainstorm de notre premier ou deuxième numéro, il y a une dizaine d'années. Une collègue nous avait alors dit qu'une amie nutritionniste aurait certainement de bonnes idées. Elle avait raison puisque depuis, elle est toujours restée à nos côtés. Comme journaliste d'abord et depuis 2 ans, comme créatrice des recettes 100% locales publiées sur notre site web. Avions-nous le droit, donc, de la choisir comme personnalité de l'année sans avoir l'air d'avoir un parti pris? Nous avons décidé d'assumer parce que l'envie de souligner le travail important qu'elle fait depuis des années était trop forte et que son nouveau projet de micro-ferme, nommé Rock le fermier, était trop inspirant pour passer sous notre radar. Une nutritionniste pas comme les autres. Dans le café du quartier Villeray, à Montréal, où nous avons rendez-vous en ce matin de novembre, Julie est penchée sur un petit cahier de notes, crayon de plomb à la main. J'ai des cahiers partout pour noter mes idées, sinon je les oublie. En écoutant Julie Aubé se raconter, on constatera vite qu'en effet, elle est une fille d'idées. Si, comme elle le dit, elle n'avait pas de plan précis pour sa carrière, elle a su souvent saisir au bon moment les opportunités qui s'offraient à elle et faire germer avec beaucoup d'amour et d'attention les idées qui ont valu la peine d'être notées dans ses précieux cahiers. Julie étudie en nutrition à l'Université de Montréal, puis fait sa maîtrise dans le même domaine en 2009. J'ai tout de suite su que je voulais faire de la communication en nutrition, raconte-t-elle. Elle complète ensuite sa formation avec le défunt certificat en gastronomie de l'UQAM, où elle rencontre celui qui est encore son compagnon de vie aujourd'hui. En début de carrière, elle travaille entre autres chez Extenso, un portail de santé consacré à la nutrition pour lequel elle œuvre surtout à faire des recherches et à récolter des données. Premier coup du destin, ses premiers emplois l'amènent à devoir faire le tour du Québec à quelques reprises. Au lieu d'aller dans les fast-foods, je me suis mise à chercher la boulangerie du coin et les petits kiosques où je pouvais acheter à manger. C'est là que j'ai rencontré les fermiers et les artisans et que j'ai eu mes premiers contacts avec l'agriculture. J'ai eu un déclic. J'ai réalisé que les aliments venaient de quelque part et je me suis mise à associer un produit à un paysage, confie-t-elle. Tout à coup, pour la nutritionniste habituée à parler de vitamines, manger a eu plus de sens que jamais à cause de la provenance des aliments. Dans ce temps-là, on cueillait des pommes, des fraises, mais sans plus. J'ai réalisé que j'étais tanné d'écrire sur les oméga-3 et je me suis mise à vouloir célébrer le tourisme gourmand. J'ai pensé que c'était la façon pour les consommateurs d'avoir le contrôle parce qu'en choisissant l'alimentation de proximité, on fait le choix de l'humain qui nous nourrit, on contrôle mieux les impacts de son alimentation sur la nature et on diminue la distance que parcourent les aliments avant d'arriver dans l'assiette, expose Julie Aubé. En prenant cette nouvelle direction, la nutritionniste avoue avoir eu peur d'être un mouton noir dans son milieu. « Je voulais arrêter de parler de vitamines pour parler de fermier, mais en conservant mon chapeau de nutritionniste, je me demandais comment ça allait être reçu. Il faut dire qu'au début des années 2010, l'agrotourisme était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Julie se souvient qu'elle devait à chaque apparition médiatique définir le terme. Mais elle le fait avec passion parce que pour elle, le lien entre nutrition et agrotourisme est clair. L'agrotourisme n'est pas qu'un loisir, c'est une façon de manger plus sainement parce qu'on mange mieux et plus lentement, qu'on choisit des aliments de base non transformés et qu'on ne veut rien gaspiller d'un produit dont on connaît l'histoire. Celle qui a grandi dans les forêts des Laurentides estime que ça a été une force pour elle de ne pas venir du milieu agricole. J'ai le chapeau de citoyenne mangeuse qui découvre tout ça en même temps que les gens. Je me sens comme une courroie de transmission entre les agriculteurs et les consommateurs. Provoquer les rencontres. C'est dans cette volonté de partager son message et de faire connaître les agriculteurs que Julie lance en 2016 le livre « Prenez le champ », qui est pour elle un point tournant. L'ouvrage qui propose 21 escapades agrotouristiques à travers le Québec lui donne une crédibilité pour parler du sujet. Tellement qu'elle est approchée pour être porte-parole de la Semaine québécoise des marchés publics, un rôle qu'elle embrasse avec bonheur depuis 7 ans. Avec cette nouvelle mission et mon livre, j'ai eu envie de réparer quelque chose, de reconnecter les consommateurs et les fermiers. Et quand ça passe par le plaisir d'explorer le Québec, de faire des rencontres et de découvrir des produits, c'est toujours plus facile. Le livre de Julie connaît du succès, mais elle ne s'assoit pas sur cette réussite, au contraire. Elle le prend plutôt comme une assise pour bâtir un nouveau projet. Dans le livre, je racontais l'histoire des humains producteurs. Je me suis mis à recevoir des commentaires de lecteurs qui allaient dans les entreprises mentionnées pour les rencontrer, mais qui étaient déçus de constater qu'ils étaient occupés. Julie se demande donc ce qu'elle peut faire pour que les rencontres se passent. Elle prend alors probablement des notes dans ses petits cahiers, jusqu'à arriver à l'idée des événements « Prenez le champ », dont la première édition a lieu en 2017, un an après la sortie du livre. Le concept? Proposer une dizaine de journées par année où elle convie les consommateurs à une rencontre privilégiée avec des producteurs, dont des vergers en fleurs, des vignobles ou des serres, par exemple. Les gens inscrits peuvent rencontrer les artisans, visiter les lieux et déguster des produits qui auront ensuite plus de sens pour eux. La formule est différente selon les saisons et les événements changent chaque année. Méchouis, raclette géante, table champêtre, dîner de style anglais sous un chapiteau, c'est à des expériences agroalimentaires en nature que convie Julie. Vous écoutez Personnalité Caribou 2023, Julie Aubé, semeuse professionnelle. Un texte de Véronique Côté, paru le 5 décembre 2023 dans le magazine Caribou. En 2018, un an après la première édition, les événements « Prenez le champ » sont récompensés au laurier de la gastronomie québécoise dans la catégorie « Tourisme gourmand » et depuis leur début, les expériences payantes pour lesquelles il faut réserver sa place sont fort populaires. « Il n'y a rien de ce que j'ai fait et qui était prémédité », précise Julie Aubé en replongeant dans ces années. Mon parcours, ça a toujours été de l'action-réaction. C'est encore le cas avec son deuxième ouvrage. Avec le livre et les événements « Prenez le champ », on sait que les aliments locaux existent. On a le goût d'en manger et d'en cuisiner. Mais comment on s'y prend en semaine avec les enfants? Comment je fais pour faire de la proximité mon quotidien? Se demande Julie. Ainsi, après une reconnexion avec les fermiers, la nutritionniste propose une reconnexion avec les saisons. Le livre « Manger local » qui regroupe des recettes et des techniques de conservation pour suivre le rythme des saisons et manger prêt à l'année est en impression pendant les premières semaines de la pandémie et sa sortie, heureux hasard, concorde avec ce moment où les gens se mettent à acheter local plus que jamais, à cuisiner et à jardiner. Le succès est au rendez-vous et rapidement. un deuxième tome, Manger local 2, contenant de nouvelles recettes, sort en 2022. Une débutante inspirante. Quand elle observe son parcours des dernières années, la pétillante trentenaire constate « J'ai toujours besoin d'apprendre. Dès que je maîtrise quelque chose, je veux me lancer dans de nouveaux apprentissages, comme si j'avais besoin de toujours être débutante quelque part. » C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée sur les bancs d'université à suivre un micro-programme de deuxième cycle en agroforesterie. Ensuite, il fallait bien mettre les apprentissages en pratique. Et pour ça, Julie a le parfait terrain de jeu depuis 2018, un lopin de 6 acres qu'elle acquiert à Saint-Roch-des-Aunais, près du fleuve, sur lequel veille une belle maison ancestrale. J'y ai jardiné 2 étés pour mon plaisir personnel, puis l'idée d'avoir ma micro-ferme a germé en 2020. Je voulais quelques légumes, mes poules, mon verger. Pour moi, c'est plus naturel d'être à la campagne. Et comme les fermiers, ce sont mes héros et mon inspiration de tous les jours, j'ai eu envie de faire partie du club. À son tour de cultiver, donc. Dans le fond, j'ai professionnalisé mon loisir. Je le faisais sur mon balcon, pour le fun, et je voulais juste un plus grand jardin. Ce projet de micro-ferme qu'elle qualifie de « bébé COVID » est baptisé « Roch le fermier » pour faire un clin d'œil au village et pour symboliser la fondation, le guide, le roch. En 2021, elle fait des semis et planifie des travaux de plantation grâce aux apprentissages faits dans son micro-programme universitaire et qui vise à optimiser les bienfaits de ses cultures pour l'environnement. Dès cette première saison de récolte, elle vend des légumes chez Pascal Le Boucher, un commerce de Montréal qui appartient à son amoureux. Oui, celui rencontré pendant le certificat en gastronomie de l'UQAM, fait des années plus tôt. En plus des végétaux, Julie accueille 70 poules dès sa première année. Aujourd'hui, quota oblige, elle en possède 99 qui vivent librement sous les pommiers, afin de créer une association mutuelle, un concept étudié dans son programme justement. Elle mange les insectes, gratte la terre et laisse du fumier qui est bénéfique pour le sol. Pour moi, le verger, c'est central. C'est là où j'applique mon agroforesterie. En 2022, elle a encore une fois su saisir une opportunité. La ferme bio qui vendait mes œufs dans ses paniers pendant la première année a cessé ses activités. J'avais donc le choix d'arrêter la production d'œufs ou de faire ma propre mise en marché. Encore une fois, j'ai juste réagi. J'ai mis un frigidaire dans mon entrée et les gens venaient chercher leurs œufs en laissant de l'argent. C'était un test et j'ai vu que ça marchait, alors cette année, j'ai investi pour faire construire un kiosque. Une autre affaire qui n'était pas prévue, dit-elle en riant. Mais même non préméditée, quand la nutritionniste fait quelque chose, elle le fait bien. Elle s'est donc demandé ce qui pourrait la démarquer des autres kiosques offrant fruits, légumes et œufs, un peu partout en région. J'ai pensé que des trucs préparés, ça pouvait fonctionner. J'aimais faire des pâtes, alors je suis allé faire un cours pour me perfectionner et offrir des pâtes fermières faites avec mes œufs de poule élevés en plein air, la farine biologique du moulin du village et des farces inspirées des légumes de mon jardin. Ça a été mon produit vedette. Puis, soucieuse des gens qui passaient en vélo et qui avaient un petit creux, elle a proposé des œufs mimosa qui ont, eux aussi, été très populaires. Pour partager et rencontrer, pendant l'été, Julie ouvre les portes de sa ferme lors des jours en 9, 9, 19, 29. Une autre belle idée qu'on trouverait sûrement dans un de ses cahiers. Si elle a fait des erreurs de fermière débutante, oh oui. La première année, j'ai commencé trop gros et lors des récoltes, je n'y arrivais plus. J'ai appris et j'ai diminué ensuite. Et puis, cette année, pour l'épauler, elle a engagé quelqu'un à temps plein. Je ne veux pas grossir, je veux rester une micro-ferme qui produit beaucoup d'aliments sans impact environnementaux. mais je veux bien faire ce que je fais petit. » Une professionnelle au pouce vert. Nous avons été chanceuses d'attraper notre personnalité de l'année à Montréal pour cette jasette avant la première neige. Elle venait tout juste de terminer sa saison la plus occupée de l'année et de fermer son kiosque libre-service de Saint-Roch-des-Aunais, ouvert 7 jours sur 7, de la mi-juin à l'Halloween, puis elle repartait, 2 jours plus tard, en Italie avec son amoureux. Parce que, même si elle est mordue du Québec et de ses fermiers, Julie, c'est aussi une grande voyageuse qui arpente le monde pour découvrir d'autres façons de faire, d'autres spécialités, d'autres goûts pour s'en inspirer. Elle passera ensuite une partie de l'hiver dans son appartement montréalais où elle fera ses semis le printemps venu jusqu'à les voyager à la campagne quand il sera temps. J'adore ces deux vies différentes selon les saisons. C'est parfait pour ma biodiversité professionnelle. Les gens peuvent peut-être trouver que je fais plein de choses et que c'est décousu, mais pour moi, tout ça a du sens et la mission reste la même. Je souhaite rendre accessible et agréable l'alimentation de proximité, dit-elle. Peut-être que rien dans le parcours de Julie n'était prévu d'avance, mais elle a regardé aller, force est d'avouer que même sans plan précis, tout ce qu'elle sème s'enracine toujours profondément. C'était Personnalité Caribou 2023, Julie Aubé, semeuse professionnelle, un texte de Véronique Côté paru le 5 décembre 2023 dans le magazine Caribou.
La psychothérapie, est-ce que ça fonctionne? Un texte de Maude Goyer, paru dans l'édition de mars 2024, dans le magazine Coup de pouce. Quand on se sent angoissé, déprimé, dépassé par les événements ou trop éparpillé, on tourne parfois en rond dans notre tête. Puis vient l'illumination, il faut prendre rendez-vous avec un psychologue et commencer une thérapie. Mais est-ce que ça fonctionnera vraiment? En mars dernier, Camille, une Montréalaise de 32 ans qui travaille dans le milieu de la publicité, était au bout du rouleau. Pression au travail, horaire surchargé, vie sentimentale anéantie, son copain l'avait quittée sans avertissement. « Tout a basculé pour moi », nous confie la jeune femme. Moi qui n'avais jamais consulté de psychologue, je me suis dit « OK, là, ça ne va pas. J'ai besoin de parler, d'être écoutée et d'être aidée. Je ne vois plus clair. » Camille a attendu 8 mois avant de recevoir un coup de fil de sa clinique médicale. Une place s'était libérée dans l'horaire de l'une des 2 psychologues rattachées au centre. Or, Camille allait mieux. « On dit que le temps arrange les choses », raconte-t-elle en riant. « Dans mon cas, c'est vrai. Je me suis rapprochée de mes parents, j'ai commencé un journal personnel, je me suis remise au sport et j'ai constaté que j'allais bien, je me sentais correcte. Je n'ai pas pris le rendez-vous. » Problème d'accessibilité. Les histoires comme celle de Camille ne sont pas rares. Nombreux sont ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale, qu'il s'agisse de troubles dépressifs ou anxieux, ce qui représente près de 65% des troubles mentaux au Québec, et qui n'ont pas accès rapidement à des services pour commencer une psychothérapie. Dans le réseau public, on peut facilement attendre de 6 mois à 2 ans pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue. Il y a présentement 9100 psychologues et 1600 psychothérapeutes dans la province. Depuis juin 2012, la psychothérapie est encadrée par la loi les personnes qui sont autorisées à la pratiquer doivent détenir une licence. L'Ordre des psychologues du Québec est l'organisme responsable de faire appliquer la réglementation et de délivrer les permis. Quelqu'un qui se dit coach ne peut pas prétendre faire une psychothérapie et traiter un cas de détresse psychologique, souligne Christine Groux, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est illégal et il peut être poursuivi. La confiance mutuelle. Au-delà de la patience pour obtenir un rendez-vous, le succès d'une psychothérapie repose sur la relation entre le patient et son thérapeute. Dans le jargon du milieu, on parle d'une alliance thérapeutique, soit un lien de confiance, une sorte de partenariat entre les deux personnes qui permet d'atteindre les objectifs. C'est important de se sentir à l'aise avec son psychologue, dit Mme Groux. Il doit s'agir d'une personne crédible, qui ne juge pas et à qui on peut poser des questions. Le choix de la personne, plutôt que l'approche choisie ou la technique utilisée, est un facteur déterminant pour la suite des choses. Autrement dit, peu importe le type de psychothérapie, psychodynamique, psychanalyse, humaniste, cognitivo-comportemental, etc., le bon fit entre le patient et le thérapeute est crucial. Martin Drapeau, psychologue, chercheur et professeur à l'Université McGill, rappelle qu'aucune approche n'est bonne pour tout et qu'il n'y a pas une thérapie faite pour tout le monde. Ça dépend de comment la personne fonctionne, dit-il. Un certain degré d'improvisation, de sensibilité et d'adaptation est nécessaire pour établir un bon équilibre et une bonne collaboration entre le patient et le clinicien. Stratégie et outils. Tout comme Christine Groux, M. Drapeau est convaincu que la psychothérapie fonctionne. Depuis 3 ou 4 décennies, on sait que la psychothérapie est efficace pour traiter des troubles courants comme la dépression et les troubles de l'humeur, indique-t-il. Elle aide à développer des stratégies, à donner des outils aux personnes. Les recherches et analyses sont abondantes sur le sujet, tellement en fait qu'on s'y perd. Il en existe des milliers qui disent tout et son contraire. Selon un rapport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de nombreuses études montrent que les différentes formes de psychothérapie sont aussi efficaces que les médicaments pour traiter les troubles mentaux courants. Elles constituent une meilleure protection contre les rechutes, commente la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Selon Serge Larrivé, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, une vaste étude française indique que la thérapie cognitivo-comportementale est particulièrement efficace. Elle se placerait avantageusement devant les modèles de thérapie familiale ou systémique et loin devant la psychanalyse ou l'approche psychodynamique. Freud avait-il tort? Par contre, Serge Larrivé apporte beaucoup de nuances quant à l'efficacité des psychothérapies. Il y a davantage d'études qui montrent que ça ne fonctionne pas que l'inverse, dit-il. Il cite en exemple le nombre de thérapies existantes, soit plus de 500 modèles différents, pour appuyer son propos. Si c'est si efficace, pourquoi y en a-t-il autant? Sa parole est controversée. Il l'expose plus largement en critiquant la pratique de la psychothérapie contemporaine dans un texte publié dans la Revue québécoise de psychologie. Il écorche notamment la psychanalyse. C'est une immense erreur de croire que nos premières expériences façonnent notre personne. Ce n'est pas sérieux, affirme celui qui accorde davantage de crédit aux thérapies centrées sur le moment présent. une psychothérapeute d'expérience qui a requis l'anonymat par crainte de représailles de la part de son association professionnelle, est du même avis. Selon elle, l'effet placebo, ou l'attente, comme celle vécue par Camille, fait autant l'affaire qu'une psychothérapie. La psychothérapie est une illusion, lance-t-elle. C'est la grande imposture du XXe siècle. Il n'y a aucune preuve que la psychothérapie a plus de bienfaits que la liste d'attente, le passage du temps ou encore le fait de se confier à un proche ou à la caissière au supermarché. C'est terrible, mais c'est comme ça. Limite et attente. Pourquoi cette omerta? Parce que la psychothérapie, c'est sacré, dit-elle. On vit à une époque où l'on ne peut pas mettre en doute la psychothérapie. Le lobby pro-thérapie est incroyable. Puis, je pense que les gens aiment être en thérapie. Ils y puisent une certaine gratification. Ils y nourrissent leur côté narcissique. Les limites de la psychothérapie, du fait de parler à un professionnel, sont-elles atteintes? Démocratisée et libérée de ses préjugés et stéréotypes, la psychothérapie est populaire, et c'est tant mieux, remarque Christine Groux. Depuis 20 ans, je pense qu'on a fait œuvre utile en faisant de l'éducation populaire. On a beaucoup travaillé sur la stigmatisation. Ce n'est plus tabou de consulter un psychologue, explique-t-elle. Et l'autre chose qu'on remarque, c'est que les gens sont plus sensibles à leurs émotions. Ils ne consultent pas pour rien. Ils souffrent réellement. Ils ont une détresse ou un trouble mental. Ils veulent comprendre quelque chose et aller au bout de leur démarche. Pour Camille, qui est restée sans consultation malgré elle au début de son mal-être, puis par choix, parce qu'elle allait mieux, les choses se sont beaucoup améliorées professionnellement et personnellement. Il ne faut pas négliger le pouvoir du travail sur soi-même, conclut-elle, ni celui de réaliser un matin qu'on va mieux et que finalement, on va bien. C'était « La psychothérapie, est-ce que ça fonctionne ?» un texte de Maud Goyer, paru dans l'édition de mars 2024, dans le magazine Coup de pouce.